Monsieur Fernand Aubagnac, bonjour. Nous sommes au hameau d'Aignières, là où ont été fabriquées des sonnailles et des cloches pendant près de 2 siècles. Vous avez quel âge?
Je suis né en 23, alors si vous calculez bien, 91 ans, au mois de mai.
Et vous êtes né ici?
Et je suis né à côté de la ville, à côté du village, dans la banlieue, le 15 mai 23.
Ce que vous appelez la banlieue, c'est...
C'est les quelques maisons qui sont là-bas avant d'arriver ici, dans le grand village d'Aignières, qui compte une vingtaine de personnes l'hiver.
Et à l'époque?
Et à l'époque, il y avait du monde. Mon père, quand il venait ici, à l'école, quand il était jeune, il y avait une école garçon et une école de filles, avec 50 élèves dans chacune. Les gens venaient de l'extérieur aussi parce que j'étais acquis une renommée. Et les gens venaient de Castanet, de Morillan, les petits qui venaient d'en face à là-haut tous les jours, à pied.
Votre père était instituteur?
Non.
Non.
Bon, bon.
Il venait
non,
à l'école ici. Il était élève ici.
Il a été élève.
D'accord.
Oui, ça marchait très bien. Il ne faisait pas de faute, mon père, d'orthographe.
Et à l'époque où vous étiez enfant, ici, il y avait encore des cloutiers?
Il y avait encore une école, quand même. Et puis, les cloutiers, ils commençaient à disparaître. Il n'en restait plus qu'un. Plus qu'un qui bénéficiait justement de notre intérêt, parce que il avait un chien qui alimentait le feu par le moyen qui tournait dans une espèce de cercle. Ça alimentait le feu de la forge. Et quand c'était fini, ils avaient atteint cette température, il lui disait, va te promener, il sortait la rue, et puis il le rappelait, et il arrivait. Il se remettait à marcher, pensait tout ça nous intéressait, tant qu'enfant. Et bien, je me rappelle quand il faisait des clous spéciaux, il faisait des clous que tout le monde recherchait, parce qu'à ce moment-là, il y avait des semelles cloutées. Alors, il faisait ce qu'il appelait des camarteaux. C'était un clou qui avait sur les côtés, à 45 degrés à peu près, quelque chose qui dépassait et il le rendait un peu plus mince. Alors ces clous se mettaient les uns après les autres et ça formait comme une espèce de barrage au bord de la semelle. Ça la protégeait. Et puis voilà que je me rappelle, mais je voyais ces gestes qui étaient conditionnés, quoi. Mais il coupait un petit bout de tige de métal qui chauffait à blanc, puis il appuyait un coup de marteau sur un tranchant métallique et ça tombait pas complètement, il le laissait pas tomber parce qu'après il aurait fallu le ramasser. Ça tenait sur un côté et il mettait cette pointe, il avait à pointer, c'était ce qui allait rentrer dans le cuir. Et il le mettait dans une espèce de trou qui était prévu. Il donnait un petit coup, ça se cassait. Et 4 coups de marteau, 2 de chaque côté. Et voilà. Et après, avec la main, il le faisait sauter. Il tombait à côté, et puis il les comptait. Et voilà, et le soir, il en avait fait un certain nombre, puis il les vendait. Mon père l'achetait pour mettre sur les chaussures. Ça les protégeait bien pour le cuir.
Et c'était un employé de granier?
Ah non.
Il était à son compte?
Non, il était à son compte. Et il vivait comme ça, en plus de ça, il était barbier. Il coupait les cheveux des gens aussi, à l'occasion. C'était sa vie.
Et il y avait combien de personnes aunières à peu près à cette époque?
Il y avait beaucoup plus de monde. Hein. Je ne sais pas, ça devait être plus de 50, 60, peut-être 70. Et il y avait des ouvriers mineurs. Peut-être 80, je ne sais rien. Il y avait des ouvriers mineurs qui travaillaient.
Et le petit hameau qui est à côté?
Eh bien, là-bas, c'était plutôt des agriculteurs. Là-bas, non, c'est plus tard qu'il y a eu un ouvrier qui voulait s'installer là-bas.
Comment ça s'appelle?
Les Salles.
Et les mineurs vivaient ici, alors?
Et les mineurs, ils avaient tous leur maison et tous un peu de terrain, un petit peu de vigne, un petit peu de jardin. Et puis, dans la nature, quelques châtaigniers, si possible. Ça fait qu'avec ça, ils avaient de quoi prévoir l'hiver, quoi.
C'était des galeries en haut pour extraire le charbon?
Extraire le charbon, mais le charbon, on le trouvait dans la nature. Hein. On n'avait pas besoin d'aller le chercher ailleurs.
C'était en plein ciel?
En plein ciel, oui. Il y avait des endroits où le charbon apparaissait. Alors on allait aller chercher ce qu'il nous fallait. Seulement, on allait le chercher sur le dos. Il n'y avait pas de chemin. Le chemin carrossable, en tout cas, quoi. C'était des sentiers. Dans la nature, on prenait ce qu'il nous fallait sur le dos et voilà. Le charbon, quand même, à poids égal, il fait beaucoup plus de chaleur. Hein.
Mais pour l'exploitation, il était descendu en bas, à Castanet ?
Et pour l'exploitation, à ce moment-là, c'était la compagnie des mines qui s'en occupait. Là, c'était privé, je suppose. Mais par la suite, ça a été les houillères qui sont arrivées et qui ont pris la succession. Alors, les houillères, c'était à Grèce-Sac et au Bousquet. Ça comprenait plusieurs puits de mines. Il y en avait un ici, que moi j'ai vu fonctionner quand j'étais tout petit. Le puits d'Aignières, on l'appelait d'ailleurs. Je l'ai vu longtemps à ciel ouvert. On pouvait y lancer un caillou, on l'entendait, ça tombait. Jusqu'à ce qu'il arrive dans l'eau. Et puis il y avait le puits Padène, le puits de Camplon, chacun avait son nom. Ils amenaient le charbon en surface. Et puis à Grèce-Sac, ils vendaient le charbon. Alors ils en vendaient directement, qu'ils partaient par wagon. Et puis ils en vendaient aussi aux gens qui en voulaient. Et il y avait la papin qu'on appelait, une petite machine qui marchait justement au charbon et qui traînait des wagons en quantité, un derrière l'autre. Elle arrivait à traîner, je ne sais pas moi, une trentaine de wagons. Mon père charriait du charbon à l'époque pour les gens qui en avaient besoin.
Et la grosse exploitation de houillères avec les gros tracteurs, tout ça, qui a tout démoli en
ça,
haut.
Ça, c'est arrivé après coup. Alors, ils ont décidé de faire ce travail à ciel ouvert. Alors, il est arrivé une batterie d'algènes énormes qui ont commencé à nettoyer dessus, à enlever la terre jusqu'à ce qu'ils arrivent aux couches de charbon qui étaient bien délimitées, ils savaient à quelle profondeur, et ils savaient l'épaisseur de la couche et tout. Donc ils ne travaillaient pas à l'improviste, là. Ils savaient où ils allaient. Et ils ont laissé, après quelque chose d'infect, le rocher à nu, tout le charbon qui était posé contre la couche de rocher, ils l'avaient exploité et puis ils laissaient comme ça. Partie comme ça.
Parce que vous, après, vous avez fait instituteur?
Oui, par la suite.
Vous étiez instituteur ici, au Nières?
Non. Non, à Bédarieux, particulièrement, pendant 20 ans. Et puis une année à Béziers, à une direction. J'ai profité de la direction pour partir en retraite.
Alors vous, vous êtes marié avec une fille Granier?
Voilà.
La famille Granier, qui était la famille qui fabriquait les cloches ici.
Voilà, voilà. Et il y avait son frère François qui s'est occupé par la suite de faire marcher les sonnettes et les cloches.
Votre femme, c'était Odile?
Oui, décédée l'an passé, le 24 février.
Et vous, vous êtes au Bagnac? Il y a plusieurs familles au Bagnac?
Oui, famille au Bagnac, je crois que la naissance, c'est à Castanet-le-Haut. Et la région au Perras, un peu partout, il y a des au Bagnac partout. Là. Puis ils ont essaimé ailleurs. Au départ, c'était surtout là. À une époque où les enfants restaient près des parents. C'est plus vrai tout ça. Les enfants vous quittent et vous les voyez moins souvent.
Et vous êtes parent, vous, avec Aubagnac, qui faisait des cloches?
Mon père et le père de celui de Castanet étaient cousins germains.
Et vous, vous les avez vus faire des cloches ici?
Ah ben oui. Ah, pas des cloches, des sonnailles.
Des sonnailles.
Les cloches, ça faisait uniquement à Castanet. Mais j'ai vu quand même les tracés qu'ils faisaient pour faire le bord de la cloche, pour lui donner le son. Ils découpaient ça dans des grosses planches épaisses. Et ces planches, il les faisait accrocher à une tige Et puis il faisait tourner, redonner tout l'extérieur à la cloche.
La fameuse photo que l'on connaît qui date vers 1900.
Oui.
Et c'est votre maison aujourd'hui.
Oui. Ici, c'était un endroit. En dessous, il y avait le four. C'était là qu'on faisait l'encuivrage. Les sonnettes, une fois qu'elles étaient terminées, il les pliait à l'intérieur d'une couche d'argile. Et il les mettait là, puis il refermait tout en laissant un trou à chaque côté. Et puis il passait ça à l'intérieur du four qui se trouvait en bas, qui le montait très haut, chauffait très haut. Ça devenait incandescent. Il remuait un petit peu ses petits paquets pour que le cuivre se promène partout, le cuivre en fusion. Et puis il attrapait avec un outil, un petit crochet. Il le sortait et il le mettait sur une espèce de rigole. Et il remuait pour que le cuivre qui était de trop sorte là et il récupérait. Et puis il jetait ça dans de l'eau, de façon que ça se refroidisse.
Et ils étaient combien à travailler là ?
Oui, ils étaient des fois assez nombreux, parce que quand c'était comme ça, ceux qui travaillaient à Castanet, aux cloches, ils montaient pour faire ce travail. Alors ça fait qu'à ce moment-là, on était 7 à 8 peut-être, pour faire ce travail d'encuivrage. Le reste du temps, non, ils étaient que 2-3, suivant ce qu'il fallait, peut-être ils en mettaient un quatrième, enfin.
Et ça se passait comme sur la photo, les bandes sonnaillées étaient dehors ?
Non. Ça, c'était un petit peu spécial, ce que vous avez vu, c'est bon. Non, ordinairement, ils étaient dedans, à l'ombre ou bien placés, quoi. Et le travail se faisait pour donner la forme de la sonnette. Il y avait un balancier. Ils lançaient à fond. Ils étaient deux, l'un en face de l'autre. Et quand ça passait, ils poussaient. Et ça arrivait à maman en force. Elle était complètement comprimée. Elle prenait la forme qu'on voulait lui donner. Elle l'enlevait, on en mettait une autre et allez. Du matin au soir, il faisait ça. Ça donnait la forme à la sonnette, parce que là, il y avait différentes formes. Là, je ne vous dirai pas comment elles s'appelaient, mais ça faisait la forme de la cloche, quoi, par la suite. La deux moitiés. Puis il les retournait, et en les retournant, la cloche se faisait, la sonnette se faisait. Alors les grosses sonnettes, comme ça, qui étaient ventrues, et puis les sonnettes qui étaient droites, là, il les faisait sans passer la tôle, balancier. Il y avait un appareil pour découper la tôle. Il la découpait dans une plaque. À mesure qu'ils avançaient, ils avançaient. Toutes, chaque fois, étaient la même dimension. Et ensuite, ils le pliaient en deux. Ils avaient une cisaille à chacun. Ils faisaient les encoches pour que les morceaux de ferraille rentrent dans l'autre. Et voilà, puis après, ils mettaient en haut quelque chose pour recevoir le battant. C'était une espèce de... Ça faisait comme un cercle avec les deux morceaux extérieurs qui sortaient et qui rivaient par-dessus. Il ne restait plus qu'à mettre le battant accroché là-dedans. Et ils avaient le coup, ils faisaient un peu tourner et puis clac, ils fermaient avec... Une paire de pinces, c'était terminé. Souvent, le battant était formé avec un morceau d'os. Ça, c'était plutôt sûrement les bergers que par la suite qui remplaçaient le métal par de l'os.
Parce qu'ici, ils livraient les cloches sans le battant.
Ah non, ils les livraient avec un battant. Ils avaient un appareil exprès pour faire les battants. C'était un appareil qui avait comme une certaine longueur. Au milieu, il y avait une rigole. Ils mettaient les petits bouts de fil de fer qui devaient s'attacher le battant, qui dépassaient un petit peu, et puis ils versaient le métal dessus. Et voilà, ça faisait le battant.
C'était des battants en zinc, alors ?
Des battants en zinc.
Ben, normalement, le battant en zinc, ça sert pour pouvoir la vendre, pour qu'on puisse écouter un peu. Et puis le berger, lui, préfère en os. Donc après, il le change quand il arrive chez lui.
C'est très possible.
Et ici, après les mines, c'est mort doucement.
Eh bien, ça vivote, disons. Déjà, les maisons achètent des maisons qui ne valent pas trop, trop cher pour passer l'été. Mais ils viennent que 15 jours, 3 semaines, un mois. Et après, le reste du temps, la maison est vide. Il y en a quelques maisons qui sont encore à vendre. La seule qui est là en face vient de se vendre il y a 15 jours. Mais c'est une grande maison, il doit y avoir 4-5 chambres. Et c'est pas recherché tellement. Les familles nombreuses peut-être en bénéficieraient, mais les familles nombreuses ont des enfants et pas d'argent. On ne peut pas tout avoir. Il faut faire le choix.
Et avant, le vrai nom du hameau, c'était comment ?
Eh bien, on pense que c'était Saint-Laurent-des-Minières, mais on n'en est pas tellement certain. Ça répondrait un petit peu aux Monières qui restaient.
Et ça fait partie de la commune de Saint-Gervais-sur-Mar.
Oui. Et à l'époque, il y avait une église, moi je ne l'ai pas vu fonctionner, qui se trouvait, une chapelle qui se trouvait derrière, par là. Vous l'avez vu peut-être. Et après, ils ont construit cette église, là. Moi je ne l'ai pas vu construire, c'est arrivé bien avant moi. Et une construction immense pour le peu de peuple qu'il y a ici. C'est énorme.
Mais à l'époque, il y avait plus de monde.
À l'époque, il y avait des gens. L'église était fréquentée. Hein. Moi, tout jeune, mes parents, ils ne loupaient pas la messe. Et moi, et tout.
Il y avait des cafés ?
Il y avait deux cafés. Deux cafés Aunières, oui, ça vous paraît bizarre, ça. Il y avait un café avec, comment on appelle ça, billard. Et puis l'autre café, en dessus, ils se touchent le prix. Et il y avait trois épiciers, il y avait deux bouchers, il y avait un bureau de tabac avec régie. Moi, j'ai connu un boulanger, il devait y en avoir deux à l'époque, avant. Un boulanger qui est resté longtemps. Et puis, tout ça a fermé.
Et vous êtes revenu habiter ici à la retraite ?
Ben voilà, oui. À la retraite, on a rejoint ici l'autre coin. Il faut dire que mes parents avaient une propriété assez importante ici à l'époque. Maintenant, ça ne vaut plus grand-chose, le terrain qui est ici. Mais à l'époque, les gens s'occupaient. À la maison, on avait un berger quand j'étais tout jeune. Un berger avait 120-130 bêtes quand même. Et puis l'hiver, il y avait 4-5 femmes qui ramassaient les châtaignes tout l'hiver, jusqu'à ce qu'ils gèlent. Elles faisaient ça des séchoirs, des grands séchoirs. Alors ils alimentaient avec justement du charbon ces séchoirs et puis ils passaient les châtaignes dans une machine à spray qui enlevait toute la peau qui était sèche et on avait le châtaignon.
Qu'est-ce que c'est?
Qui était exploité. C'était la châtaigne qui était sèche, qui avait séché et qui était dure comme du bois. En le mettant dans l'eau et en le faisant cuire, ça retrouvait sa souplesse et son goût qui n'était pas désagréable.
Et c'était pour eux? Ils ne les vendaient pas?
C'était pour eux, ils les vendaient, si, ils en vendaient beaucoup. Mais ça servait aussi aux bêtes. Et il y avait toujours quelques cochons qui étaient élevés chaque année dans toutes les maisons. Donc ce cochon, il mangeait pas mal de châtaignons. Et ça engraissait les hommes, ça engraissait les cochons. Les gens vivotaient comme ça. C'est vrai, mais il semble pas, mais quand ils tuaient un cochon, il y avait des provisions pour toute l'année. Se tuer qui pesait 120, 130, 140 kilos, ça faisait quand même de quoi manger. Et puis il y avait des gens qui étaient spécialisés pour tuer le cochon et le débiter. Et puis il y avait des dames qui étaient spécialisées pour le cuisiner. Pour séparer les morceaux. On appelait ça la fricasse. les joues du cochon partaient à droite, le foie était mis de côté pour faire le pas des pâtés. Chaque pièce du cochon était répertoriée et avait sa destination. La préparation de quelque chose de spécial, du boudin, de la saucisse, saucisson. Ces femmes étaient spécialisées là-dessus, elles savaient tout.
Et ça faisait une fête aussi quand on tuait le cochon ?
Il y avait une petite fête, oui, il faut dire qu'il y avait tellement à manger ce jour-là. On pouvait manger la viande de cochon, le filet. En patois, on appelait ça la tindelle. La tindelle, il y a le mot tendre dedans. C'était pas le plus mauvais morceau du cochon.
Et on parlait beaucoup le patois à l'époque ?
Uniquement. Uniquement en patois avant moi, à partir. Déjà, mes parents, quand ils allaient en classe, ils se faisaient taper sur le doigt s'ils parlaient patois. C'était interdit, mais en dehors de l'école, on parlait patois. Et moi, mes parents, ils ont toujours parlé patois entre eux.
Donc vous, votre langue maternelle, c'est le patois ?
Peut-être pas, mais entre eux, moi, ils me parlaient français, plus souvent. Mais entre eux, ils causaient en patois. Mais ça s'est terminé. Les deux derniers que j'ai vus parler en patois, bon, ils sont morts il y a une quinzaine d'années peut-être. Ils tenaient une conversation en patois. Maintenant, moi, ça m'arrive souvent de dire des mots de patois, mais je ne tiens pas une conversation en patois. Eux, ils parlaient normalement.
Et c'était un patois spécial ou c'était l'occitan ?
C'était le patois du coin, qui n'est pas spécial, mais enfin, qui avait ses particularités. Maintenant, il y a des mots qui changent. En patois, enfin, dans le bas, ils disent un chi pour le chien. Ici, ils disent un co. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Là-bas, la nuit, la neige, et ici, la gnoche. Mais c'est différent. Aujourd'hui, bay, yoy, ici. Il y a des mots qui changent. Et ça commence à changer à partir au-dessus de Bédarieux, à Pétafi. La barrière, après, la plaine, c'est plus la même, tout à fait la même façon de parler. Différence.
Le patois de la plaine et le patois de la montagne.
Voilà.
Mais là, c'est proche quand même, ça fait d'un village à l'autre assez proche, et les mots sont quand même assez différents.
Quelques mots différents dans ce sens, mais il n'y en avait pas tellement qu'on les connaissait, ces mots. Et eux aussi, ils savaient. Alors ici, on était les gavaches. Et là-bas, c'était pas les gavaches, c'était autre chose. Je supposais qu'ils étaient supérieurs aux gavaches.
Ça veut dire quoi, gavache ?
Le mot gavache n'est déjà pas très beau à entendre. Hein. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de culture, qui vivent un petit peu différemment des autres. Moi, j'avais un oncle qui était à Gabian, il venait souvent pour me voir mes parents. Il tenait conversation en patois, mais chacun dans sa langue. Mais il se comprenait fort bien. Il n'y avait pas tellement de mots différents quand même. Et puis tout ça, les gens de la plaine, c'est que souvent qu'ils avaient essaimé, ils étaient descendus de la montagne. Mon oncle faisait 500 hectares de vin. Avec 500 hectares, il avait nourri toute l'année. Il avait ce petit bénéfice, il mangeait avec, quoi. C'était pas énorme, il avait l'entretien du cheval. Il pouvait vivre avec 500 hectares. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut en avoir quatre fois plus, au moins.
Et ici, au Nières, on peut vivre sur le pays ?
Ici, au Nières, les gens vivaient comme ça. Ils avaient 20 hectares de vin, 10 hectares, 20 hectares chacun. Moi, j'arrivais à en avoir 70 ou 80. Mes parents vivaient dans la propriété, quoi. Ils avaient des vignes plus importantes. Quand ils sont partis, j'ai continué un petit peu, quoi. J'avais quatre enfants sur le dos, il fallait quand même qu'on puisse les alimenter, parce que les métiers instituteurs, ça gagne peu. Quand on sait comment on gagne, c'est qu'on ne gagne pas grand-chose.
À l'époque, c'était mal payé ?
Ça a toujours été mal payé, hein. Par rapport aux autres pays. Ça a été mal payé. À un moment, c'était tellement mal payé que je les ai abandonnés pour aller travailler à la mine comme comptable. Parce que j'avais 10 000 francs par mois et à la mine, ils m'en ont fait 13. Ça s'est amélioré dans l'enseignement par la suite. Je suis revenu dans l'enseignement que je n'avais pas abandonné au départ.
Et Aunières, l'école s'est terminée quand?
L'école s'est terminée en 60, 70, tout cassé, 65 peut-être.
Et vous n'avez jamais pu revenir là alors? Ça vous aurait plu d'enseigner là?
Pas précisément. Non, je pense pas. À Bédarieux, je connaissais pas mal de gens. J'ai resté 20 ans quand même aussi. Hein. Et puis, bon, chacun fait son nid, là. Ils me connaissaient un peu, moi aussi. J'avais pas trop de problèmes, aucun problème avec les enfants, quoi. Et puis, j'étais sur la liste de ceux qui pouvaient être directeurs. J'avais passé l'examen. Mais à Bédarieux, le moment où j'aurais pu y passer, quelqu'un plus avait plus de points que moi. Il m'a sulfaté la place, c'était une bonne chance, parce que je me rends compte après coup que, avec les collègues que j'avais, que j'étais copain, ça aurait été plus difficile à régenter. Il y a des choses qu'on peut dire à des gens qu'on ne connaît pas, et quelques scrupules pour les dire à ceux qui ont été vos égaux, quoi. Bon, après, la dernière année, il s'est découvert. J'ai réussi à partir à Béziers parce que toute la famille était contre. Ma femme, les enfants, mais on est bien à Bédarieux, qu'est-ce que tu me vas aller courir à Béziers? Ah ben j'ai dit, mais comme vous voulez, moi je vais à Béziers, si vous voulez pas venir, restez. Et là-bas, j'avais, automatiquement, en tant que directeur, j'avais le logement. Et il était tellement bien qu'il voulait plus en partir après.